Bonjour, ici Chantal Hébert. Je suis heureuse de vous retrouver sur Globule Radio 90.5 FM, comme tous les jours, pour écouter la suite du livre Les 8 montagnes de Paolo Cognetti. Dans la deuxième partie du chapitre 8, Bruno et Piero donc sont sur le chantier et ils restent dormir tous les deux là-haut et partagent de plus en plus de moments récréatifs comme aller se baigner dans le lac ou aller pêcher des truites. Bruno confie que le chantier de cette maison aura été comme une répétition générale pour lui. Il veut restaurer l'alpage de son oncle. Piero lui raconte son désir de voyage en Asie. Fin septembre, la maison est finie. Piero amène sa mère admirer leur réalisation. Ils chantent tous les trois devant la maison et Piero dit solennellement qu'il souhaite que Bruno considère cette maison comme la sienne. Les trois compères descendent à Grana et c'est la fin de cette deuxième partie du roman des 8 montagnes. Aujourd'hui, chapitre 9, c'est la troisième partie du roman qui s'intitule « Hiver d'un ami ». C'est un vieux Népalais, des années après, qui me parla des 8 montagnes. Avec sa cargaison de volailles, il remontait la vallée de l'Everest en direction de quelques refuges, où elle deviendrait du poulet au curry pour touristes. Il portait sur son dos une cage qui devait contenir une douzaine de cellules, et les poules, vivantes, y faisaient un vacarme de tous les diables. Un convoi pareil, je n'en avais encore pas croisé. J'avais vu des hottes remplies de chocolat, de biscuits, de lait en poudre, de bouteilles de bière et de whisky et de Coca-Cola, aller par les sentiers du Népal pour satisfaire les goûts des Occidentaux. Mais un poulailler portable, jamais. Quand je demandais à l'homme si je pouvais le photographier, il posa son chargement contre un muret, ôta de son front le bandeau qui lui servait à porter et prit la pose, tout sourire, à côté de ses poules. Comme il en profitait pour souffler, nous parlâmes un moment. Il venait d'une région où j'étais allée moi aussi et s'en étonna et me demanda pourquoi je m'intéressais autant à l'Himalaya. Il comprit que je n'étais pas un promeneur de passage. Je réussissais même à aligner quelques phrases en népalais et me demanda pourquoi je m'intéressais autant à l'Himalaya. J'avais déjà la réponse toute trouvée à cette question. Je lui dis qu'il y avait une montagne sur laquelle j'avais grandi, à laquelle j'étais très attachée et qu'elle m'avait donné envie de voir les plus belles à l'autre bout du monde. « Ah, dit-il, je vois, tu fais le tour des 8 montagnes. »« Quelles 8 montagnes ?» L'homme ramassa un petit bâton avec lequel il fit un cercle dans la terre. Le motif était parfait. On voyait qu'il avait l'habitude de le dessiner. À l'intérieur, il traça un diamètre, puis un deuxième, perpendiculaire au premier. Et puis encore un troisième et un quatrième le long des bisectrices, obtenant ainsi une roue à 8 rayons. Je me dis que si j'avais voulu arriver à une figure comme celle-là, je serais partie d'une croix. Mais c'était typiquement asiatique de partir d'un cercle. « Tu as déjà vu ce dessin ?» me demanda-t-il. « Oui, répondis-je, dans les mandalas. »« Exact, dit-il. Nous disons qu'au centre du monde, il y en a un autre, beaucoup plus haut, le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a 8 montagnes et 8 mers. C'est le monde pour nous. » Tout en disant ces mots, il traça à l'extérieur de la roue une petite pointe au-dessus de chaque rayon, puis une vaguelette d'une pointe à une autre, 8 montagnes et 8 mers. À la fin, il entoura le centre de la roue d'une couronne qui devait, pensais-je, être le sommet enneigé du Sumeru. Il jaugea son travail un instant et secoua la tête, comme s'il avait déjà fait 1000 fois ce dessin, mais avait un peu perdu la main dernièrement. Il planta quand même son bateau au centre et conclut. Et nous disons, lequel des deux aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des 8 montagnes ? Ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ? Le porteur de poules me regarda et sourit. Je fis de même, parce que son histoire m'amusait et que j'avais le sentiment de la comprendre. Il effaça le mandala de sa main, mais je savais que je ne serais pas près de l'oublier. « Celle-là, me dis-je, il faut absolument que je la raconte à Bruno. » Le centre de mon monde, durant ces années-là, c'était la maison que nous avions construite ensemble. J'y séjournais de longues périodes, entre juin et octobre, et y emmenais parfois des amis qui en tombaient aussitôt amoureux, si bien que je finis par avoir là-haut la compagnie qui me manquait en ville. La semaine, je vivais seule, passant mes journées à lire, écrire, couper du bois et flâner sur les vieux sentiers. La solitude devint pour moi une condition familière. Elle avait du bon, mais pas seulement. Par chance, les samedis d'été, j'avais toujours de la visite. La maison cessait alors de ressembler à la cabane d'un ermite et devenait un de ces refuges que je fréquentais autrefois avec mon père. Avec le vin sur la table, le poêle allumé, les amis qui discutaient jusqu'à point d'heure et les kilomètres nous séparant du monde qui faisaient de nous des frères l'espace d'une nuit. Le refuge se réchauffait au feu de cette intimité et en conservait, me semble-t-il, les braises d'une visite à l'autre. Bruno aussi était attiré par la chaleur de la Barma. Je le voyais déboucher du sentier le soir venu, avec un morceau de tome et un gros litre de vin. Ou je l'entendais frapper à la porte quand la nuit était déjà tombée, comme si recevoir la visite d'un voisin dans la nuit des 2000 mètres était tout ce qu'il y avait de plus normal. Si j'avais de la compagnie, il se joignait volontiers à la tablée. Je le trouvais plus bavard que jamais, comme quelqu'un qui se serait tu trop longtemps et aurait accumulé un tas de choses à raconter. À Grana, il restait confiné dans son monde, avec ses maisons, ses livres, ses promenades dans les bois, ses idées silencieuses, et je comprenais l'urgence qui le poussait à se laver et à se changer après une journée de chantier, à ignorer la fatigue et le sommeil, et à emprunter le sentier qui montait au lac. Avec ses amis, nous parlions souvent d'aller vivre en montagne tous ensemble. Nous lisions Bookchin et rêvions, ou faisions semblant de rêver, de transformer un de ces hameaux abandonnés en citadelle écologique où nous aurions expérimenté notre idée de société. Il n'y a qu'en montagne qu'on pourrait faire ça. Il n'y a que là-haut qu'ils nous laisseraient en paix. Nous en avions vu d'autres, des expériences dans le genre, à travers les Alpes, et toutes s'étaient très vite soldées par un échec. Mais c'était justement les raisons de ces échecs qui alimentaient notre moulin et ne nous empêchaient pas de continuer de rêver. Comment ferions-nous pour manger ? Comment pour l'électricité ? Comment pour construire les maisons ? Il nous faudrait bien encore un peu d'argent, mais comment ferions-nous pour nous le procurer ? Où enverrions-nous nos enfants à l'école, si tant est que nous décidions de les y envoyer ? Et comment résoudrions-nous le problème de la famille, cet ennemi encore plus redoutable que la propriété et le pouvoir, qui tue dans l'œuf toute communauté ? C'était le jeu de l'utopie auquel nous jouions tous les soirs. Bruno, qui lui construisait pour de vrai son hameau idéal, prenait un malin plaisir à démolir le nôtre. Il disait « Sans ciment, vos maisons ne tiendront pas debout. Et sans engrais, vous ne réussirez même pas à faire pousser l'herbe sur les pâturages. Et sans carburant, j'aimerais bien voir comment vous couperez votre bois. L'hiver, vous comptez manger quoi ? Polenta et patates, comme les vieux ?» Et il disait « C'est bien un mot de la ville, ça, la nature. Vous en avez une idée si abstraite que même son nom l'est. Nous, ici, on parle de bois, de prés, de torrents, de roches. Autant de choses qu'on peut montrer du doigt, qu'on peut utiliser. Les choses qu'on ne peut pas utiliser, nous, on ne s'embête pas à leur chercher un nom, parce qu'elles ne servent à rien. » J'aimais l'entendre parler comme ça. Et j'aimais aussi le voir s'emballer tout de suite après pour certaines des idées que nous ramenions de nos voyages à travers le monde, lui qui était le seul capable de les concrétiser. Une année, il tira 50 mètres de tuyaux d'un des ruisseaux qui alimentait le lac, creusa un tronc de mélèze avec sa tronçonneuse et construisit une fontaine devant la maison. Nous nous retrouvions avec de l'eau pour boire et nous laver. Mais ce n'était pas le but principal. Sous le jet de la fontaine, il installa une turbine que je m'étais fait envoyer exprès d'Allemagne. Elle était en plastique, grande comme un bras, pareille à une girouette. « Oh, Berio, tu te rappelles, dit-il, le jour où notre moulin a commencé de tourner ? Bien sûr que je me rappelle. » Ce système rechargeait une batterie qui nous permettait à la maison de tenir une radio et une petite lampe allumées toute la soirée. Elle tournait nuit et jour, n'était pas tributaire de la météo comme un panneau solaire ou une éolienne, ne coûtait rien et ne consommait rien. C'était l'eau qui dévalait du grenon, tombait dans le lac et en descendant, faisait un crochet par la maison pour nous mettre de la lumière et de la musique dans nos soirées. Une fille monta avec moi durant cet été 2007. Elle s'appelait Lara. Nous étions ensemble depuis quelques mois seulement. Nous étions dans cette phase qui, pour d'autres, correspond au début d'une relation. Sauf que pour nous, c'était déjà la fin. J'avais commencé à me défiler, à l'éviter et à jouer les absents pour qu'elle me laisse tomber avant que toute cette histoire ne finisse par devenir trop douloureuse. C'était un système rodé. Et ces jours-là, elle m'obligea à le reconnaître avec des mots. Elle se fâcha une nuit, puis ça lui passa. Nous eûmes même de beaux moments, une fois qu'il était entendu que ce seraient les derniers. La maison, le lac, les pierrailles et les crêtes du Grenon plaisaient beaucoup à Lara, qui faisait de longues promenades en solitaire le long des sentiers. Je fus surpris de voir à quel point elle marchait. C'était une femme aux jambes musclées, à l'aise avec la vie spartiate que nous menions là-haut. J'en sus plus sur elle, à la Barma, qu'au cours des 2 mois où nous avions couché ensemble. Elle avait grandi dans un endroit pareil à celui-là, où elle se lavait à l'eau froide et se séchait devant le feu. Elle venait d'autres montagnes qu'elle avait quittées il y a des années pour étudier et qui maintenant lui manquaient. Ce n'est pas qu'elle regrettait d'être allée s'installer en ville. Elle avait le sentiment d'avoir vécu une histoire d'amour avec Turin, avec les rues, les gens, les nuits, les emplois qu'elle y avait exercés et les maisons qu'elle avait habitées. Une histoire longue et belle, mais qui touchait à sa fin. Je lui dis que je la comprenais bien. Qu'il m'était arrivé quelque chose de semblable, à moi aussi. Elle me lança un regard triste, mêlé de reproches et de regrets. L'après-midi, je la vis descendre au lac, se déshabiller sur la rive, entrer dans l'eau et nager jusqu'à ce bloc pareil à un écueil. Et je me dis un moment que je l'avais peut-être écartée trop vite. Puis, je me rappelais dans quel état j'étais quand j'étais en couple et cessais d'y penser. Ce soir-là, j'invitais Bruno à dîner. Il était en retard d'1 an sur son programme à cause des prêts et des autorisations qui lui avaient fait perdre du temps, mais il avait bientôt fini de rénover l'alpage. Il ne pensait qu'à ça. Depuis 3 ans, il faisait des bras de fer avec les employés de banque et les fonctionnaires communaux, cumulait 2 emplois l'hiver pour gagner l'argent qu'il dépensait l'été, et était dans le même état de concentration absolue, proche de l'obsession, que je lui avais connu pendant ma saison d'ouvrier. Il passa toute la soirée à nous parler des tables aux normes, de locaux propres à la production du fromage et de caves pour l'affinage, d'équipements en cuivre et en acier, de carrelages lavables dans les vieilles baïtées. Autant de discours que je connaissais par cœur, mais pas Lara, à qui toute cette fougue était en grande partie destinée. Il me faisait rire, mon vieil ami Bruno, parce que je ne l'avais encore jamais vu tenter d'impressionner une femme. Il choisissait des mots plus recherchés qu'à l'accoutumée, faisait de grands gestes et se tournait souvent vers elle pour contrôler ses réactions. « Tu lui plais, » lui dis-je quand il fut parti. « Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Ça fait 20 ans que je le connais. C'est mon meilleur ami. » « Je ne savais pas que t'avais des amis, » dit Lara. « Je croyais que tu te défilais dès que t'en voyais un. » Je ne relevais pas. Essuyer son sarcasme était la moindre des choses. Il faut du style, même quand on se fait quitter. Et Lara, elle en avait. Je me préparais à partir pour une mission cet automne-là quand Bruno m'appela à Turin. C'était la première fois que j'allais dans l'Himalaya et j'étais dans tous mes états. Entendre sa voix au téléphone me surprit, un peu parce que aucun de nous n'était à l'aise avec ses appareils, un peu parce que ma tête était déjà à des milliers de kilomètres. Il alla droit au but. Lara venait de lui rendre visite. Lara, pensais-je. Nous ne nous étions plus revus depuis notre séjour ensemble en montagne. Elle était remontée seule, cette fois, avait voulu visiter l'alpage et savoir où il en était dans ses projets professionnels. Bruno lui avait raconté qu'il comptait lancer l'exploitation au printemps. Il prévoyait d'acheter 30aine de vaches et de ne vendre son lait à personne pour pouvoir produire son propre fromage. Et il prévoyait d'engager quelqu'un. C'était ce qu'elle espérait entendre. L'endroit lui plaisait, les vaches, elle avait grandi avec, et elle s'était aussitôt proposée de venir travailler. Bruno était flatté, mais pas tranquille. Il n'avait pas envisagé la présence d'une femme. Quand il me demanda ce que j'en pensais, je lui dis « À mon avis, elle est tout à fait capable. Elle a la tête dure. » « Ça, j'avais compris, » dit Bruno. « Alors quoi ?» « Ce que je n'ai pas compris, c'est où vous en êtes, tous les deux. »« Ah, dis-je, je ne sais pas. Ça doit faire 2 mois qu'on ne se voit plus. »« Vous vous êtes disputés ?»« Non. Il n'y a rien entre nous. Je serais même heureux qu'elle monte s'installer chez toi. »« T'es sûr ?»« Certain. Ça ne me pose aucun problème. »« Alors, tant mieux. » Il me salua et me souhaita un bon voyage. En voilà un homme d'un autre temps, pensais-je. Qui, de nos jours, demanderait la permission de faire ce qu'il compte faire? Quand je raccrochais, je savais déjà à quoi m'en tenir. J'étais heureux pour lui, et pour elle aussi. Puis j'arrêtais de penser à Bruno, à Lara et à tous les autres, et commençais à préparer mon sac à dos pour l'Himalaya. C'était Chantal Hébert pour l'émission « Je vous emmène » sur Globule Radio. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des 8 montagnes de Paolo Cognetti. C'est la 3e partie du roman qui s'intitule « Hiver d'un ami ». Et cet enregistrement a été possible grâce à l'agence Jean de Cham à Chamonix. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD ou à l'hôpital et tous les soignants qui les accompagnent. Merci à eux. C'était Chantal Hébert sur Globule Radio 90.5 FM. Bon week-end à tous !